regardez donc vos montres à gousset et autres téléphones portables modernes. Il est très exactement 20h. Et c'est un nouveau numéro de Quasar on the Air qui démarre, le 9e de l'année. On vous souhaite la belle soirée, en espérant vous trouver en pleine forme Stéphane Corbin, qui vous accompagne jusqu'à 21h, l'heure de l'émission du Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans et Intersexe plus d'Angers, situé au 15 rue de Jérusalem. Ça se situe, si vous voulez, entre l'avenue Pasteur et le cimetière de l'Ouest, la rue de Jérusalem étant perpendiculaire aux deux axes, notamment le boulevard des Deux Croix. On espère que vous avez mis à profit tous ces temps et ce radoucissement, refroidissement et puis radoucissement. En tout cas, c'est le printemps qui arrive. Vous pouvez en être tout à fait certain et certaine. Bon, plein de choses dans l'actualité LGBTQIA+. Alors, sans attendre, laissez-moi vous narrer notre programme de ce soir. Nous allons avoir du beau monde ce soir et vous allez voir, nous allons faire la palette et le grand écart entre les situations, les personnes et les associations. Nous allons commencer ce soir par accueillir le président de Gay Pride, l'association qui œuvre pour des tas de choses concernant les seniors LGBTI. Nous en parlerons avec son président Sylvain Guyot. Et puis nous parlerons aussi des enfants, les enfants d'arc-en-ciel et surtout les mères sociales avec Le Cri du Cœur, qui est un ouvrage, un document édité par les enfants d'arc-en-ciel et qui traite des mères sociales qui sont les grandes oubliées dans le cadre des couples lesbiens en cas de séparation. Elle nous expliquera très exactement le projet et la réalisation de ce livre, Le Cri du Cœur. Et puis comme nous avons commencé avec les seniors, eh bien nous allons terminer avec les beaucoup plus jeunes. Et les beaucoup plus jeunes, eux, eh bien ce sont deux études qui leur sont totalement destinées et qui se nomment Hope LGBTQIA. Nous aurons une des organisatrices et chercheuses de cette double étude qui est pilotée par l'Université de Nîmes. Donc vous voyez, nous avons un programme chargé. Alors autant commencer tout de suite avec l'agenda. Et quand nous feuilletons l'agenda de Quasar, eh bien nous tombons sur plein de dates que nous allons évoquer tous ensemble maintenant. Alors l'agenda du mois d'avril, puisque déjà le 30 mars que nous sommes plongés directement dans le mois d'avril. Nous allons vous parler des permanences. Lesquelles permanences ont lieu, vous le savez sans doute, mais c'est bon de le rappeler, chaque samedi de 17h à 19h, les premiers 8, 15 et 22 avril, ainsi que le 29 avril. Donc il y a 5 dates, 1er, 8, 15, 22 et 29. Alors vous poussez la porte au 15 rue de Jérusalem à partir de 17h. Vous venez prendre un verre d'eau, un café, un thé, vous venez papoter. Si vous avez des questions, eh bien on vous écoute et éventuellement les permanenciers ou permanencières vous orientent vers les pôles de Quasar. Sinon, si on a la réponse, eh bien vous repartez avec votre réponse. Le dimanche 2 avril, si vous avez l'âme joueuse, il faudra en profiter puisque c'est le fameux dimanche premier du mois pour jouer aux cartes, aux jeux divers et variés de 14h30 à 17h30 dans nos locaux. 15 rue de Jérusalem. Le jeudi 6 avril, c'est le nouveau temps de Transparent qui vous est proposé par la team Trans Inter. Le 6 avril, de 19h à 21h, c'est à destination des conjoints, des conjointes, des parents et de toute la famille d'une personne trans sans sa présence, mais avec la présence d'autres personnes trans qui pourront répondre à ses questions, à leurs questions, à leurs problématiques, et puis poser une parole aussi, parfois de difficulté, de compréhension, et là tout peut être expliqué. Le samedi 8 avril de 9h à 12h, ce sont les cours de français, principalement pour les demandeurs et demandeuses d'asile, mais ça peut être aussi pour les adhérents, ne vous inquiétez pas. Le 8 avril, toujours, Transfamille, un tout nouveau rendez-vous dans l'activité Agenda de Quasar, proposé aussi par la Team Trans Inter. C'est la réunion des familles. Alors là, tout le monde est convié, c'est-à-dire les personnes transgenres, généralement les plus jeunes, et toute leur famille pour échanger entre eux, parce que figurez-vous, quand on a un jeune trans à la maison ou une jeune trans, c'est bien facile de l'entendre et de dire « oui, oui, on va voir après », mais quand ça vient d'autres familles et d'autres jeunes dans d'autres familles, vous comprenez que ça prend un autre relief. Donc le 8 à 15h. Toujours le 8, un autre temps aussi à 15h, c'est la permanence jeune 15-25 ans. Vous poussez la porte de 15h à 17h. Vous venez papoter, jouer, vous détendre et rencontrer d'autres jeunes. Jeudi 13 avril de 20h à 22h, nous nous retrouverons ici même pour Quasar on the Air. Le samedi 15 avril de 9h à 12h, cours de français à nouveau. Et de 10h à 17h le samedi 15 avril, une journée spéciale pour les demandeuses et demandeurs d'asile, mais aussi pour les adhérents et les personnes qui s'intéressent. C'est une journée rencontre spéciale sur la déportation organisée par les membres de Quasar. Samedi 15 toujours, le samedi 15 à 15h et jusqu'à 17h, nouveau numéro de Transat. Et puis le 21, c'est le rendez-vous habituel, 21 avril, vendredi, de la conviviale, repas partagé à partir de 20h dans les locaux de Quasar. Samedi 22, cours de français de 9 à 12. Et le jeudi 27 avril, de 20h à 22h, Quasar on the Air, Radio G ici même. Et enfin, pour terminer, samedi, la permanence, comme je vous le disais. Mais aussi, et ça, c'est important, vous l'avez noté, et donc, vous le gardez bien quelque part, parce que ça peut toujours servir pour une personne de vos connaissances. Ce sera les cours de français. Allez, on fait une petite pause avant notre premier invité, Sylvain Guyot. Tout de suite, on parle d'un petit gars avec Suzanne. Radio G 101.5.
Comment tu vas leur dire, ça fait des jours que tu ressasses. Un dimanche en famille, ton père sera assis à sa place. Il te dira, ça va mon fils, t'as pas l'air, ton assiette. Alors dis-nous, ce qui cette fille que t'es fait tant tourner la tête entre l'entrée et le rôti. Tu vomiras la grande nouvelle, tu répondras,
papa, cette fille, c'est Samuel.
Mamie qui règne au bout de la table dira qu'elle n'a plus d'ouïe, que tous les plans ont refroidi. Ton père devient tout blanc, t'avais prédit le scénario. Encore plus blanc que la crème qui fond sur le gâteau. Tu leur as coupé l'appétit, ils digèrent tous le gros ragot. Imaginez, le fils prodige est un homo. Ils te regardent tous comme un inconnu, planté là dans le salon. Alors c'est toi qui fais la fille ou le garçon. T'es gêné, t'as capté dans les yeux de ta mère qu'elle se demande ce qu'elle a pu louper pour faire un fils pédé. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, tu te fais petit. Hey. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, c'est trop petit. Hey. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. Je veux pas d'un type comme toi, je veux pas d'une tapette sous mon toit. Dégage, va te faire soigner. Surtout ne reviens pas, tire à tourner dans des boîtes à pédales, dans des backrooms sales. Je te passe les détails, là-bas tu verras le sida. Et plus à la mode que Madonna, tu finiras en string, à danser sur un char, à gueuler avec une bande de folles que t'es fière d'avoir une tare. Et moi j'ai trop honte, tu m'as sali, ne me dis pas, t'as pas choisi. Des baffes en plus auraient servi, mon fils est mort aujourd'hui.
tu croiseras des gendarmes qui traiteront de petites baltringues, des anciens potes qui se demandent si tu les matais à l'époque. Une foule en t-shirt rose et bleu qui te regardera comme un lépreux. Fais pas d'enfant, c'est contagieux, pense à ce que dira Dieu. Tu te feras passer à tabac, t'as passé sur le boulevard gratuitement par trois lascars. T'es comme une clope sur le trottoir. Petit gars, reste droit sous le poids de la bêtise. Petit gars, n'écoute pas ce que c'est, j'en dis. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, tu te fais petit. Hey. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, c'est trop petit. Hey. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime.
Et y a tellement de petits gars qu'on embrasse ce soir. On vous souhaite une bonne soirée et Suzanne finalement a tout résumé.
Radio G, www.radio-g.fr.
Quasar en Zier accueille son premier invité. Premier invité, c'est Sylvain Guyot qui nous rejoint au téléphone. Bonjour Sylvain.
Stéphane.
Bonjour, bonjour. Alors Sylvain, toi tu es le président d'une association qui œuvre sur l'ensemble du territoire national et qui s'appelle Grey Pride. Alors déjà, comment est-ce qu'on l'écrit et finalement quel est le sens du nom de cette association?
Oui, en anglais, hein, donc c'est tous ceux qui commencent à avoir des cheveux gris. Donc ce sont plus de 50 ans, voilà. LGBTQIA+, donc de l'ensemble de notre communauté. Et Pride, parce que ça fait référence au Pride, c'est fier, on est fier d'être vieux, parce qu'effectivement, vieux, c'est pas péjoratif, c'est un état.
Voilà, uniquement, on est bien d'accord.
Voilà, voilà. On donc, est jeune, on est adulte et on est vieux.
Et donc Grey Pride est né il y a combien de temps à peu près?
Alors, c'est une association récente, fin 2016, qui est née d'un collectif d'associations et de militants de la première heure, de Aide, de Basiliade, de Action Traitement, de David et Jonathan, enfin un ensemble d'associations qui commençaient à avoir des préoccupations sur la situation des seniors LGBT en France. Et c'est le président fondateur, c'est Francis Carlier, que certains ont peut-être croisé, puisqu'il a l'initiative, un des cofondateurs de Arc-en-Ciel, qui était un des premiers lieux d'accueil pour les VIH dans l'époque de la guerre du sida.
D'accord. Et donc, Grey Pride est né, a été porté par Francis Carlier sur les fonts baptismaux, selon une expression connue, et puis s'est développé. Et aujourd'hui, Grey Pride a quoi comme mission très exactement? On va les survoler et puis on va revenir sur chacune d'entre elles.
C'est vraiment porter tous les sujets qui sont liés aux seniors, mais de manière très pratique. Donc, c'est les formations en EHPAD pour éviter les discriminations. C'est les formations en maintien à domicile. C'est le développement de coopératives de soins innovantes aussi pour qu'on soit s'adapter. C'est l'habitat partagé pour les seniors LGBT aussi, pour vivre autrement et avoir une autre alternative en EHPAD. C'est un pôle recherche qui va commencer à publier son premier numéro. Et c'est de la convivialité et de l'animation dans différents groupes régionaux.
Alors, quand tout de suite, là, je capte le terme pôle recherche, qu'est-ce que ça peut bien rechercher dans une association telle que Grey Pride?
On est un peu sur le modèle de la PHP où on mélange en fait les unités INSERM avec les unités de soins, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir et on fait appel à beaucoup de chercheurs. Alors c'est souvent eux d'ailleurs qui s'intéressent beaucoup à nous. Et à partir des thèses, des mémoires ou des études qui sont faites soit sur les seniors, soit sur nos propres projets, on essaye d'adapter en fait nos projets pour mieux répondre en fait à la problématique des seniors. Alors il y a un sujet vraiment fondamental qui est creusé. Alors d'abord il y a eu l'habitat, donc ça va être le premier livret qui va être publié en septembre. Mais on est très en recherche aujourd'hui sur le concept affinitaire. C'est quoi affinitaire? C'est quoi l'habitat affinitaire? C'est quoi le fait de se retrouver ensemble? Voilà.
Et justement, est-ce que actuellement c'est une forte demande ou c'est une prise de conscience montante? Je veux dire par là la prise de conscience que la vie en EHPAD, c'est peut-être pas la solution, tout du moins dans une première volonté, dans un premier sens, c'est aussi de creuser cette notion à laquelle les gens n'avaient pas forcément pensé de prime abord.
Alors, le scandale des EHPAD récents a accéléré, mais cette réflexion elle est d'avant, puisque notre label pour les formations EHPAD, il date de 2019-2020. Faut comprendre que les fondateurs, ce sont ceux qui ont fait la guerre du sida et qui sont rescapés pour une grande partie. Mmh. Et à qui, on avait dit qu'ils allaient mourir au bout de 3-4 ans, peut-être 6 mois pour certains, et ils sont encore là presque 30 ans après.
Voilà, ils ont fait ce qu'on appelait le deuil du deuil.
Le deuil du deuil. Et en fait, ils se sont dit, mais ils s'attendaient pas à vivre. Et ils ont dit, mais aujourd'hui, notre vieillesse, on veut la vivre comme on veut, comme on a envie, dans les conditions d'habitat qu'on veut. Et on ne veut pas qu'on commence à nous réimposer une invisibilité, alors que pendant cette guerre du sida, on s'est battu à la fois pour notre prise en charge. Alors, je parle en connaissance de cause, parce que je suis aussi personne concernée. Mais on s'est aussi battu parallèlement pour nos droits. Même s'il y a encore des choses à faire, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Et il n'y a pas de raison qu'arriver à l'âge de la retraite, on nous dise à nouveau « Ah ben non, vous décidez plus ». Alors, ce problème-là, il est dans l'ensemble de la société, mais il est encore plus accru. Alors, on appelle ça souvent les discriminations intersectionnelles, mais il est encore plus accru quand on est senior LGBT, encore plus quand on est senior LGBT VIH. Mmh. Et alors, quand on est senior LGBT VIH et une femme, c'est vraiment le maximum, quoi. Voilà.
Et donc, dans les membres de Grey Pride aujourd'hui, vous avez en termes de proportion, plus d'hommes, plus de femmes, comment est-ce que ça se passe?
Alors, ça dépend des régions.
D'accord.
En fait, alors si on prend le total, on est majoritairement plus d'hommes. Mmh. On va dire vraiment 80%, allez, 70%, 30% au total. Si on prend les membres cotisants, c'est supérieur, parce que souvent les femmes ont des faibles pouvoirs d'achat et ne cotisent pas. Nous, on peut participer à nos activités sans forcément être adhérent. C'est d'accord. Pas forcément un bloquant chez nous.
C'est pas une condition sine qua non.
Non, parce qu'en fait, on accueille tout le monde. Voilà. Après, on va demander l'adhésion quand on participe à des voyages ou quand on va rentrer dans des projets d'habitat partagé spécifiques.
Oui, parce qu'il y a la couverture,
l'assurance. Voilà, voilà. Mais si on est à Paris, on est beaucoup plus d'hommes, mais ça s'explique parce que sur Paris, il y a aussi beaucoup plus d'associations et d'associations spécifiques de lesbiennes ou de trans. Donc, on va être un petit peu moins de femmes et plutôt une ou deux trans. Quand on va être une ou deux personnes trans, quand on va être en province, on est souvent moitié homme, moitié femme. Et on voit arriver depuis un an, des personnes trans, même plus jeunes, puisque nous, on considère qu'on est senior à partir de 50 ans, et on voit arriver des personnes plus jeunes trans qui, en province, ne trouvent pas forcément d'association ou de lieu. Il n'y a pas forcément de centre LGBT tout près.
Exact. En tout cas, pas partout.
Pas partout. Quand on est à l'antenne de Saint-Brieuc, Rennes, c'est loin. C'est pas à côté.
Il y a des zones blanches aussi en France.
Voilà, on a des petits groupes aussi en Bourgogne, dans la Nièvre, vers Moulins, etc. Alors il y a une émergence, mais il y avait rien jusqu'à maintenant. Et là, on a moitié homme, moitié femme parce que la visibilité est différente. Et puis on a des plus jeunes personnes qui se rajoutent en fait à nos groupes parce qu'elles se sentent un peu seules, un peu isolées dans ces zones blanches. Voilà.
On les accueille. On parle senior, lesbienne, gay, trans. Et la sexualité, on en parle à Grey Pride ou pas?
Alors, non seulement on en parle, mais on parle que de ça. Dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, le premier combat, c'était de dire que notre sexualité ne s'arrête pas avec la vieillesse. elle va jusqu'au bout et elle va jusqu'au bout comme nous on a envie qu'elle soit. Alors on a cassé les codes en 2018 avec l'exposition Révolution Senior où on a des gays, des bi et des trans donc dans beaucoup d'associations amies qui ont posé sur les affiches dans les positions du Kama Sutra. Oui. Et cette exposition a beaucoup tourné jusqu'à la Covid, ça s'était arrêté et elle est à nouveau réclamée. Voilà, et on prépare pour 2024. 2024, je pense, alors ce sera plutôt fin, parce qu'avec les Jeux Olympiques, c'est un peu compliqué. Oui. Mais Révolution Senior 2.
D'accord.
Avec des surprises sur les pauses. Voilà.
Acrobatique, si j'ai bien compris.
Voilà.
Bref.
Exactement. mais la sexualité, quand on fait une sensibilisation dans les EHPAD, je prends l'exemple d'un EHPAD sur la communauté de communes d'Annemasse, enfin, l'intercommunalité d'Annemasse, à la fin de la séance, même des hétérosexuels ou des alliés, comme on peut les appeler. Alors, ils ne sont pas toujours alliés dans les EHPAD. Hein. Il y a encore beaucoup d'homophobie, même chez les résidents, pas seulement chez le personnel. Et ils viennent demander des sextoys après, donc parce qu'on explique, parce qu'il vaut mieux qu'une femme, parce qu'il y a une majorité de femmes en EHPAD, demande un sextoy plutôt que d'utiliser un manche à balai, quoi. C'est
oui,
c'est un risque de moins se blesser. Quoi.
De risque de se faire agresser par un pensionnaire,
voilà.
Parce que voilà.
Le problème de la vision de la sexualité, c'est qu'en fait, en EHPAD aujourd'hui, quand en fait un homme a envie de sexualité, on dit que c'est un vieux libidineux.
Et, oui.
Et quand c'est une femme, on dit qu'elle perd la tête.
C'est ça, c'est ça. Et donc, vous brisez d'une certaine forme le tabou en en parlant très clairement
et en
disant que ça continue. Et là encore, preuve d'universalisme, comme le Pax, finalement, parler de sexualité, c'est aussi parler de sexualité hétéro, mine de rien.
Ah, mais encore mieux, c'est qu'en réalité, notre formation, elle part de la discrimination LGBT en EHPAD, parce que c'est la plus criante, parce que c'est là qu'un VIH est refusé, parce qu'il y a des histoires de financement avec le pot commun pour le remboursement des médicaments et qu'on préfère utiliser des mauvaises raisons pour pas l'accueillir ou parce que tout simplement on sait pas le prendre en compte mais en réalité de cette formation on va parler de féminisme, on va parler de problèmes de classe, on va parler aussi de problèmes de niveau culturel et donc toutes les discriminations et en fait ça sert à tout le monde. D'ailleurs la plupart du temps quand on est sollicité par un directeur ou une directrice d'EHPAD, c'est parce qu'on est dans un EHPAD qui a déjà globalement une démarche inclusive. C'est-à-dire qu'il commence à se dire, on peut pas continuer comme ça, les méthodes qu'on avait avant ne sont plus les bonnes, et il faut qu'on soit beaucoup plus ouvert, mais même pour les hétérosexuels. À Annemasse, l'animatrice me disait, avant, il y a 10 ans, quand un résident voulait aller voir une résidente, je me cachais et je l'emmenais par les sous-sols. Aujourd'hui, c'est protocolisé et on ne prévient plus la famille, parce qu'avant on considérait qu'on était plus majeur et on prévenait la famille.
Oui, parce que ça infantilise les personnes concernées, comme on le sait bien.
Oui, tout à fait. Voilà.
Donc, une exposition fin 2024 avec la version 2 de ce qui a été connu.
Et une grande conférence, comme en 2018, on a fait une grande conférence sur les projets à mettre en place. Et en 2024, ça sera une grande conférence sur les projets réalisés. Puisqu'en fait, tout ce qu'on avait dit en 2018, finalement, on est en train de le faire.
On a parlé de l'habitat partagé, donc ça, c'est encore un grand sujet. On pourra revenir dessus dans les prochains numéros de Quasar en
Zière. Je vous parle d'ailleurs de l'habitat partagé, puisque moi, je suis un des occupants du premier habitat partagé
d'accord.
de 2020.
Donc, tu es vraiment au cœur du réacteur.
Ah oui.
Et puis la conviviale, je suppose que ce sont des conviviales, des partages, des temps, des bons moments, quoi.
Alors, oui, c'est une fois par mois, dans la plupart des régions. À Paris maintenant, ça c'est aussi toutes les semaines. Il y a un accueil toutes les semaines. En fait, il y a parfois un thème. Le dernier thème, par exemple, le samedi dernier à Paris, c'était le droit de choisir sa fin de vie.
Et voilà. Évidemment, ça concerne tout le monde, effectivement.
Ça concerne tout le monde. La fois d'avant, c'était sur les assistants sexuels. Il y a eu une autre fois où on a discuté, c'est comment j'occupe mes vacances quand je suis seul, où je peux aller. Enfin, c'est vraiment tous les sujets.
Hein. En tout cas, on est bien d'accord que l'habitat partagé a aussi pour vocation de rompre les solitudes qui peuvent naître soit d'être célibataire, soit d'être veuf ou veuve.
Oui, alors il y a même parce qu'on va avoir un peu plus d'appartements à la fois sur Paris et en province. On est sur un projet aussi sur 3 appartements sur Nantes, et on espère que d'autres régions vont suivre. Il y a aussi des couples. Couples qui demandent là récemment, couples de filles, couples de garçons, qui souhaitent chacun avoir leur chambre parce qu'en vieillissant on veut être tranquille. Et voilà, qui veulent. Après, c'est là l'intérêt de creuser notre concept affinitaire, c'est-à-dire que on n'est pas dans un projet communautariste en disant ça ne doit être que des gays, ça ne doit être que des lesbiennes, ça doit être que des trans. En fait, on accompagne les groupes pour que par affinité ils se choisissent. Alors, bien évidemment, là, on a un groupe, ce ne sont que des personnes trans âgées. Bon, elles veulent être entre elles, pour plein de raisons, etc.
Oui, on comprend.
On a le premier groupe historique, ce ne sont que des garçons. On a un groupe de filles aussi qui, voilà. Mais en province, on est sur des groupes mixtes.
D'accord.
Et il y a un groupe où il y aura une alliée. Parce que c'est quelqu'un qui est connu du groupe, voilà. Et c'est là où en réalité on essaye dans ce type de projet de définir qu'est-ce qui va être affinitaire à l'ensemble du groupe qui se constitue.
Oui.
Et le groupe va définir ce qu'il est prêt à partager et ce qu'il est prêt à ne pas partager, c'est-à-dire est-ce que je mange ensemble une fois par semaine, une fois par mois ou tous les jours, est-ce que je mutualise mes courses ou pas, est-ce que je mutualise ma lessive ou c'est chacun son jour, et le groupe est libre. Chaque groupe va vraiment en toute liberté, c'est-à-dire on va chacun décider comment on va construire notre mode de vie dans le groupe qu'on constitue ou qu'on rejoint.
Finalement, on a parlé de la vie, on a parlé de lessive, de vaisselle, tout ça, la vie au quotidien. Merci beaucoup, Sylvain Aiguillot, président de Grey Pride, et puis on reviendra sur les habitats partagés et leurs concepts et ainsi de suite. Très très bonne soirée,
merci
Sylvain. Ciao,
bientôt,
bye.
Merci, au revoir, Stéphane.
Allez, on va la soutenir jusqu'au 13 mai. La Zara. Évidemment, elle représentera la France au concours de l'Eurovision. Quasar Anzière, Quasar, vous y êtes.
Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de doigts. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie. Demain, je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. Le bois sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt. Promesse que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, ai-je réussi à chanter, à chanter la grande France. C'est toujours faux pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment.
Bon, j'espère aura porté chance et qu'elle pourra emporter haut la main l'Eurovision 2023. Cela dit, nous serons en pleine Gay Pride, plutôt marche des fiertés et soirée et nuit de la Pride au Shabada. On pourra suivre sur écran très probablement, comme à chaque fois. Nous invitons maintenant à nous rejoindre une autre personne, c'est Marie-Lou Guilly qui est au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous appelez, ou plus exactement nous vous avons appelé, et vous êtes du côté de Nîmes, si je ne m'abuse.
Exactement.
Alors, on vous a invité pour nous parler d'un projet, d'une double étude en réalité, qui a pour nom HOP, comme espoir en réalité, LGBTQIA+. De quoi s'agit-il très exactement? Vous, en tant que chercheuse et participante et élément moteur de ces deux études?
Alors, ces deux études, elles font partie d'un projet de recherche qui dure 3 ans. Et en fait, elles sont incluses dans 4 études, plus précisément.
D'accord.
Mais on va se concentrer sur ces 2 études dans un premier temps. Donc en fait, elles cherchent un petit peu à étudier les caractéristiques personnelles des personnes LGBT et leurs proches, et étudier aussi les interactions entre eux, entre elles.
Oui.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir étudier ça sur 1 an, voir comment ça évolue. Et l'objectif, en fait, c'est de rendre compte des processus qui sont impliqués dans la manière qu'ont les personnes LGBTQIA+ et leurs proches pour faire face au stigma, mais aussi de rendre compte des mécanismes qui sont impliqués dans l'acceptation des parents de leurs enfants LGBTQIA+.
D'accord. Alors, voilà. Comment est-ce que vient l'idée d'une telle étude et des besoins mis en place pour la réalisation?
Alors, en fait, il y a déjà effectivement beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet. En ce moment, c'est un sujet un petit peu de mode, entre guillemets. Mais il n'empêche que la souffrance des personnes LGBT sont toujours là. Donc, voilà. Et du coup, on cherche à combler, entre guillemets, certaines lacunes. Donc certaines recherches qui n'ont pas forcément été faites en France. Et nous, en fait, on se concentre sur l'accompagnement des familles, donc surtout parents-enfants, parce que les études démontrent que les jeunes personnes LGBT, elles ont surtout peur de faire leur coming out à leurs parents. Et en fait, c'est la plupart du temps justifié, parce que la moitié du temps, plus de la moitié du temps, les parents réagissent soit très maladroitement, soit les rejettent partiellement ou complètement. Donc c'est une période très compliquée. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir fournir des supports pour accompagner les familles sur comment faire, comment répondre à mon enfant quand il m'annonce qu'il est gay, lesbienne ou transgenre. L'idée, c'est de pouvoir accompagner dans ce sens-là.
D'accord. La première des études, ou une des études, consiste à remplir un questionnaire. Donc, vous pourrez avoir le lien sur le site de Quasar, il n'y a aucune difficulté. Ça requiert de passer combien de temps, de réfléchir beaucoup? On peut faire une partie, revenir? Comment est-ce que ça se passe, ce genre d'études?
Alors, donc, pour répondre au questionnaire, c'est la jeune personne LGBTQIA+, donc entre 15 et 25 ans, et un de ses parents qui peuvent répondre.
Oui.
Donc ce questionnaire, je vous avoue, il est un peu long. Il fait 40 minutes, mais en soi, on ne les voit pas passer. C'est pas que moi qui le dis, c'est les autres personnes qui me le disent aussi.
Oui.
Et beaucoup réfléchir, non, parce qu'en fait, le mieux, c'est de donner une réponse sans trop chercher, sans trop structurer l'esprit, quelque chose qui vient assez spontanément. C'est pas quelque chose qui nécessite énormément de ressources.
Oui, faut pas des connaissances particulières, c'est juste son ressenti, son vécu.
Exactement. D'accord. Exactement, c'est ça. C'est très perso, c'est très subjectif. Alors, il faut savoir que les réponses sont anonymisées. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on demande des codes au début de la passation. Donc, on demande aussi une adresse mail, mais qui est séparée du reste d'autres données. Je préfère le préciser parce que c'est vrai qu'on nous demande et je comprends que ça puisse faire un peu peur.
Oui.
Et alors, pour revenir, on peut enregistrer des réponses à un moment donné si on en a marre et revenir ensuite.
Voilà.
En donnant ses identifiants. Voilà.
Très bien.
C'est tout à fait possible.
Oui, ce qui permet de faire ça de façon cool, en réalité.
Exactement.
Et puis aussi, il y a quelque chose qui revient, on peut revenir éventuellement, enfin, il y a tout est possible dans ce genre-là. Mon petit doigt m'a dit que l'équipe se compose de chercheurs ou de chercheuses de l'université de Nîmes et que certains sont activement impliqués au cœur d'associations LGBTQIA+. Et de quelle association s'agit-il ?
Alors du coup, je vais parler pour moi.
Oui.
En l'occurrence, alors du coup, moi, j'ai participé à la création de du centre LGBTQIA+ de Bourges,
oui.
Donc qui est une toute jeune association. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'elle existe. Et dans nos autres collègues, on a Lucille Montalesco qui a participé à plusieurs assos LGBT sur Paris, sur Montpellier.
Oui.
Et on a du coup Élodie Charbonnier qui porte ce projet et qui est active dans la cellule de lutte contre les discriminations de l'université.
D'accord. Et la deuxième étude de témoignage, c'est pareil, c'est sur un lien ou c'est une interview avec une personne en chair et en os au bout du fil ?
Alors, l'étude avec le témoignage, elle est avec moi. on prend un rendez-vous par mail,
oui.
Et ensuite sur Zoom, on peut faire l'entretien à distance, mm-hmm. ou alors sur Nîmes, mais bon, comme tout le monde n'est pas de Nîmes, on comprend bien que ce soit par distance.
Bah oui.
Et du coup, bah, par Zoom, voilà, c'est un entretien qui dure à peu près une demi-heure, une trois quarts d'heure. Et voilà, donc c'est avec moi et les questions se concentrent, je peux pas dire exactement précisément, mais globalement, ça se concentre sur l'expérience de la personne en tant que personne LGBT et surtout, bah, comment ça se passe avec sa famille. Donc, on a des personnes qui peuvent témoigner, qui ont déjà rempli l'étude 1, mais on a aussi des personnes, du coup, qui peuvent témoigner sans avoir rempli l'étude 1, parce que, ben, si vous voulez, la difficulté est dans le titre, faut que ça se passe plutôt bien que les parents.
Oui.
Et, ben, du coup, l'étude 2 permet que, ben, même si ça se passe pas très bien que les parents, ou s'ils ne sont pas au courant, ben, on puisse quand même partager son ressenti, son expérience.
Et alors, si c'est un jeune qui contactait l'un ou le premier questionnaire, au moins, et qu'il soit dans une situation de rejet familial, lui ne pourra pas entrer directement dans l'étude, si je comprends bien.
Ben en fait, pour l'étude 1, ça nécessite que le parent réponde aussi.
D'accord.
Donc, c'est vrai que c'est très compliqué, si pour le jeune, c'est compliqué dans la famille, d'aller voir son parent et lui dire, si on faisait un questionnaire de 40 minutes sur ce qui nous pose un peu problème en ce moment, quoi.
D'accord.
Ouais, c'est peut-être plus compliqué.
Et pour le financement d'une telle étude sur tant d'années, vous avez des partenaires, comment ça se passe ?
Alors c'est l'ANR qui nous finance, donc voilà le projet sur 3 ans, et qui fait aussi que moi je peux être à temps plein sur cette étude-là.
D'accord, donc ça a démarré il y a quelque temps déjà, et on est au début en réalité.
C'est ça.
D'accord. Le temps d'ouverture du lien pour le questionnaire, jusqu'à quand à peu près ?
Alors, pour le questionnaire de l'étude 1, on table sur le 31 mai.
Oui.
Pour la fin. Après, il se peut qu'on déborde un petit peu si vraiment on n'a pas assez de participants ou participantes, parce que c'est vrai que c'est compliqué de recruter. Donc, si jamais vous écoutez cette radio et que vous êtes entre 15 et 25 ans et que c'est OK pour vous, je vous invite à le faire.
Oui.
Mais du coup, peut-être qu'on laissera quelques temps de plus, mais c'est vrai que pour l'instant, on a tablé sur le 31 mai.
D'accord. Donc, on rappelle le nom, Hope LGBTQIA. Est-ce qu'il y a une adresse site où on peut retrouver l'explication, les éléments, les liens, en plus que du site de Quasar ?
Alors, on peut aller sur l'Instagram, en fait.
Oui.
C'est l'Instagram qui me vient. Donc, qui est hope, donc espoir.lgbtqia, tout simplement, sur Instagram. Et là, on peut avoir le résumé de l'étude et un lien qui amène vers le projet de la fac, enfin, qui est sur le site de la fac.
Voilà, et comme ça, vous pourrez effectivement tout découvrir. Merci beaucoup Marie-Lou Aiguille et surtout très bonne soirée, bonne étude, bon questionnaire et puis on essaiera de reprendre des nouvelles et de voir où vous en êtes dans le suivi.
Eh bien merci beaucoup à vous.
Merci de votre disponibilité. Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
Radio G. 101.5 FM.
Bon, ça y est, vous êtes prêts, vous êtes chaud. La soirée est bien engagée. We'll dans quelques instants une autre invitée. You should be dancing. La preuve, les Bee Gees. Impeccable pour nous remettre dans nos jeunes années avec les Bee Gees. Troisième invitée, comme promis, elle est là, elle est bien avec nous. Bonjour Héloïne Fouillou.
Bonjour.
Alors Héloïne, tu es vice-présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. En deux mots, peut-être nous rappeler depuis quand existent les Enfants d'Arc-en-Ciel et quelles sont ses missions qu'elle s'est elle-même octroyée finalement.
Alors l'association existe depuis 2007, ça commence à faire un petit moment.
Vous êtes des vieilles déjà.
Voilà, déjà. Donc c'est une association nationale qui est reconnue d'intérêt général et qui accompagne les personnes LGBT dans leurs projets parentaux et dans leurs démarches juridiques. Et défend les droits des familles LGBT parentales.
Alors, dans les missions que vous vous êtes confiées, vous venez d'avoir une action il y a très peu de temps, avec l'édition et la préparation, surtout, d'un ouvrage, d'un document qui s'appelle « Le cri des cœurs ». De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, « Le cri des cœurs », c'est l'histoire de mamans sociales qui ont été... privés de leurs enfants.
Alors, on rappelle ce que c'est qu'une mère sociale pour celles et ceux qui ne sauraient pas.
Alors, une mère sociale, c'est, pour faire court, c'est la mère qui n'a pas porté l'enfant.
Dans un couple, lesbien,
dans un couple de femmes. Mmh. Et qui donc est considérée comme sociale en rapport avec la mère biologique.
D'accord.
Et ces mères sociales n'ont pas forcément de statut dès la naissance de leur enfant.
Et qui ne sont pas reconnues comme la deuxième mère bien souvent, de l'enfant.
Absolument. Voilà. Alors l'évolution de la loi fait qu'il y a désormais des possibilités pour obtenir une reconnaissance dès la naissance, mais avec des conditions qui sont très précises et qui doivent être suivies à la lettre, sinon c'est pas possible.
On y reviendra dans quelques instants. Hein.
Absolument. Et donc, il y a de nombreuses mères qui n'ont pas pu faire reconnaître leur place de parent. Et qui, bon, en soi, c'est déjà un problème, mais en cas de séparation, ça veut dire qu'elles n'ont pas de lien légal avec leur enfant. Elles sont considérées comme des tiers.
Et souvent, il y a coupure du lien.
Et en l'occurrence, il arrive... Et en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé à ces mères, d'avoir une coupure du lien, puisque la mère biologique a décrété qu'elle ne verrait plus leur enfant.
Donc ça, ce sont des situations terribles. Et alors, comment vous est venue l'idée de ce projet, le cri des cœurs ?
En fait, ces mamans sont venues vers nous parce qu'elles avaient besoin de soutien et elles avaient besoin d'être entendues, au-delà du fait d'avoir des conseils. Et souvent, elles se trouvaient très isolées. Dans leurs histoires, elles avaient l'impression d'être incomprises par la société, par la loi. Elles étaient invisibles en fait. Elles n'étaient pas reconnues en tant que parents et elles se sentaient complètement isolées dans leur détresse. Donc, on a mis en place un groupe de parole pour ces mères et elles ont eu envie de créer quelque chose pour faire avancer la loi, pour que leurs histoires soient connues, pour qu'elles soient entendues au-delà du cercle de l'association et qu'en ayant conscience des conséquences, des manquements de la loi, ça amène à la loi à changer.
Mmh, que les politiques, les gens qui découvriraient le bouquin, puissent s'interroger et dire « là, il y a quelque chose à faire ». C'est ça le but.
Voilà. Et au-delà de ça, que toutes les personnes qui lisent ce livre et qui découvrent leurs histoires prennent conscience qu'elles sont en souffrance par les manquements de la loi et agissent pour ça.
Est-ce qu'elles témoignent à visage découvert ou vous avez changé les prénoms et les photos ne sont pas les leurs directement?
Alors, on n'a pas mis de photos où elles pouvaient être reconnues, mmh. parce que c'était des photos avec leurs enfants, donc c'est
un peu compliqué.
C'est pas possible. Mmh. Voilà. Il y a des dessins, il y a des textes. Au niveau
de l'histoire.
Au niveau de leurs, par contre, elles racontent leurs histoires et certaines le signent de leur prénom, certaines de leurs initiales.
Parce que je te pose la question, Héloïne, parce que je me disais que finalement, si coupure effectivement avec l'enfant il y a, c'est quand même un beau témoignage qui pourra un jour qu'il pourra
absolument
découvrir.
Absolument, certaines l'ont d'ailleurs verbalisé du fait que si elles n'avaient pas la chance de réussir à faire aboutir leur procédure et retrouver leur enfant, au moins un jour, il aurait la preuve qu'elles n'ont jamais cessé de se battre.
Voilà, elles ont fait quelque chose, les unes les autres, et qu'elles, ensemble, et pas qu'une seule, ont pu se battre. Et dans les combats, il y a aussi cette méthode-là qui est
absolument
proposée. Alors donc c'est un livre qui est proposé à la vente aux alentours de 15 euros, si je suis bien renseigné. Il y a pour celles et ceux qui ne peuvent pas plus un tarif solidaire à 10 euros. Mais évidemment, on invite à choisir le prix. Il va d'ailleurs falloir que Quasar l'achète absolument.
Alors, pour préciser, le tarif à 10 euros, Parce qu'effectivement, on l'a mis en tarif solidaire pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est un tarif qui est, enfin, c'est prix coûtant.
Oui, voilà. Il n'y a pas de perte pour l'association, mais il n'y a pas de bénéfice.
Voilà, il n'y a aucun bénéfice. Tous les bénéfices qui sont faits
sur les
ventes vont au soutien pour ces mamans.
D'accord. Alors, on note que le bouquin, lui, a été mis en page par Mallory Cantagrel, qui est graphiste et membre active de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel.
Voilà, qui était stagiaire chez nous et qui a pris en charge ce projet avec beaucoup de cœur et qui a donc mené à bien la mise en page et la présentation de ce livret.
Combien de mamans, à peu près, ont témoigné dans le bouquin?
Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement combien, parce que je n'ai pas compté.
C'est pas essentiel, mais je veux dire, c'est une petite dizaine sans doute, au moins.
Oui, une dizaine, oui.
D'accord.
Toutes n'ont pas choisi de participer à ce livret, parce que c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup de temps et qui demande de se plonger en permanence
dans son histoire.
Dans son histoire, reparler de son histoire, et c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux pour elle.
Ouais. D'où le titre, Le cri des cœurs.
Absolument.
Alors, il y a le bouquin qui existe, et puis tu as évoqué, Héloïne, la situation des couples de femmes aujourd'hui. Alors, on rappelle la situation de la loi depuis l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. La problématique, c'est cette fameuse déclaration commune anticipée. Est-ce que tu peux expliquer en deux mots?
Alors, effectivement, le seul moyen d'avoir une reconnaissance de la mère qui n'a pas porté l'enfant dès la naissance, c'est la reconnaissance conjointe anticipée.
Qui s'enregistre où?
C'est un acte notarié et qui doit obligatoirement être fait en même temps que le consentement à la PMA, c'est-à-dire avant la conception de l'enfant.
Et surtout pas après.
À partir du moment où l'enfant est conçu, il n'est plus possible d'enregistrer cette reconnaissance conjointe anticipée.
Ce qui est quand même assez incroyable, quoi.
Absolument. Et comme il y a eu assez peu d'informations à ce sujet. Beaucoup de femmes ont cru qu'elles allaient pouvoir le faire quand elles seraient enceintes.
Oui. En se disant, on a le temps.
Et
on
justement,
pas se presser, voilà.
Et voilà, on se sont dit qu'elles avaient déjà un parcours de PMA à mener, que c'était déjà bien suffisamment compliqué.
Ce qui est vrai.
Absolument. Oui. Et qu'elles feraient ces papiers-là ensuite. Puisqu'on a en plus repris le même terme de reconnaissance anticipée, qui était utilisé déjà pour les couples hétéros qui veulent reconnaître leur enfant en mairie au cours de la grossesse.
D'où la confusion.
D'ailleurs, de nombreux notaires ont dit au début aux femmes, le faites pas maintenant, vous reviendrez voir quand vous serez enceinte.
Erreur fatale,
ces femmes n'ont pas pu le faire ensuite.
C'est quand même terrible. Je veux dire, quand on nous dit qu'il n'y a pas de discrimination, je serais assez curieux de voir les couples hétérosexuels logés à la même enseigne et finalement leur dire, vous ne pourrez pas avoir un deuxième parent parce que vous n'avez pas fait la déclaration commune avant la grossesse, quoi.
Alors, il y a bien évidemment discrimination, puisque sinon on rentrerait dans le droit commun.
Évidemment. Donc,
on pourrait, comme n'importe quel couple hétéro, se rendre en mairie pour déclarer la naissance de nos enfants.
Mais
c'est pas le cas.
N'allons pas trop vite, n'est-ce pas, pour ne pas bousculer cette belle et vieille société française qui n'est pas prête à cela.
Enfin, qui est tout à fait prête. Les gens ne comprennent pas d'ailleurs ces procédures tellement différentes.
Et alambiquées surtout. Voilà. Et terriblement compliquées. C'est comme si on voulait effectivement rendre impossible la réalité de la PMA et de l'existence de la mère sociale sur les documents officiels au final.
C'est d'autant plus compliqué que cette reconnaissance conjointe anticipée, elle n'est possible que pour les couples qui passent par une PMA.
Voilà.
Les couples qui décident de passer par dissémination artisanale avec un donneur connu, par exemple,
n'y ont pas droit. Ce qui est encore plus aberrant.
Tout à fait.
Parce qu'ils pourraient aussi signer une telle convention commune anticipée, ou un bar, et on n'en parlerait plus.
Absolument, mais on veut laisser la place au donneur pour une éventuelle volonté de prendre une place parentale.
Voilà, c'était
comme
la crainte.
Si on faisait pas la différence, comme si on faisait pas la différence entre un donneur et un parent.
Exactement.
C'est toujours cette confusion qui sous-tend beaucoup de choses. Hein.
Oui.
Et tous ces couples qui n'ont pas pu obtenir une reconnaissance conjointe anticipée ou la faire valoir sont obligés de passer par une adoption de l'enfant du conjoint.
Voilà. Ou du mariage pour pouvoir adopter. Voilà, comme,
Alors, depuis la réforme de l'adoption en février 2022, il n'y a plus d'obligation d'être marié.
Voilà.
C'est désormais ouvert pour les partenaires de PACS et pour les concubins. Mais par contre, ce n'est pas possible quand on est séparé.
Oui.
Et ça, c'est le cas de figure que la plupart des femmes qui ont participé à ce livret ont rencontré. Certaines, enfin même beaucoup, étaient mariées pour pouvoir justement faire l'adoption de l'enfant du conjoint. Une bonne partie d'entre elles étaient d'ailleurs mariées quand leur enfant est né.
Oui.
Mais n'ayant pas de présomption de parenté, elles n'ont pas pu faire reconnaître leur place de parent. Et la séparation étant arrivée, pas d'adoption.
Effectivement, c'est le constat. Nous accueillions donc à l'instant Héloïne Foyou qui nous parlait d'abord de la situation et puis de ce fameux livre Le cri des cœurs qui est en vente en ligne sur le site des Enfants d'Arc-en-Ciel au prix de 15 euros. Précipitez-vous, c'est un livre important. Très belle soirée Héloïne, au plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, bonne soirée. Au revoir.
Radio G. www.radio-g.fr.
On va doucement refermer ce quasar en zière. On rejette un petit coup d'œil sur l'agenda pour vous dire que les permanences ont lieu tous les samedis, notamment le samedi prochain, le 1er avril, mais le 8, le 15, le 22 et le 29. Les permanences sont dans les locaux de Quasar, au 15 rue de Jérusalem, de 17h à 19h. Jeudi 2 avril, vous pourrez jouer après-midi jeu de 14h30 à 17h30 dans les locaux de Quasar. Jeudi 6, toujours à Quasar, transparent, le temps d'échange, de rencontre avec les parents, les conjoints, les conjointes, les personnes de la famille, sans la personne trans de leur propre famille. Le jeudi 6, de 19 à 21h à Quasar. Le samedi 8, comme tous les samedis matins, cours de français pour les demandeuses et demandeurs d'asile, de 9h à 12h avec Sylvia. Le 8 avril, toujours, un nouveau numéro, un nouveau rendez-vous plus exactement, Transfamille, proposé par la team Trans Inter. Ce sont les parents, les enfants, trans en l'occurrence souvent mineurs ou tout juste majeurs, qui se rencontreront et qui pourront papoter et échanger entre eux. Super important. Toujours samedi 8 avril, la permanence jeune 15-25 de 15h à 17h. Et puis on saute au jeudi 13 avril, Quasar en zière. On se retrouvera sur ces mêmes ondes de 20h à 21h. Le samedi 15 avril, cours de français 9h, 10 ou 12h, et puis surtout de 10h à 17h, pour les demandeuses et demandeurs d'asile, un cours d'histoire animé, évidemment, qui ne soit pas rébarbatif, qui aura pour thème une journée de rencontre sur la déportation en général et la déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Le samedi 15 toujours, Transat, le temps d'échange, de rencontre par et pour les personnes transgenres, à genre et non-binaires à 15h et jusqu'à 17h en non-mixité. La conviviale aura, elle, bien lieu le vendredi 3e du mois, conviviale à Quasar dans nos locaux à partir de 20h. Et puis le jeudi 27, on se retrouve aussi pour Quasar en zière. Vous voyez, on ne manque pas de raison de venir à Quasar et surtout d'en profiter. L'occasion de vous dire avant de refermer ce magazine que évidemment l'agenda vous donne les grandes lignes, mais que nous pouvons toujours à la demande en téléphonant sur le portable de l'association qui est le 0 658 422 717, je répète, 06 658 422 717, numéro de téléphone portable normal, eh bien vous pouvez demander des rendez-vous individuels dans le cas où vous avez des questionnements, et en fonction de la thématique, on vous aiguille vers un des pôles ou vers les personnes de ces pôles qui peuvent vous recevoir. Et bien voilà, ça y est, une heure, ça passe mais tellement, tellement vite. On a été ravis d'être avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une bonne soirée pour commencer. Et puis soyez heureux dans vos vies. Et puis s'il vous arrive quoi que ce soit, lesbophobie, transphobie, biphobie ou homophobie, vous n'hésitez pas à contacter Quasar. Ciao, à bientôt, bye.
KFM, radio-g.fr.
Yes.